Il est 18h à Kinshasa, 19h en Boujima et au Kassai Oriental. C'est l'heure de vous informer. Bonne écoute.
Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, l'heure est aux interrogations dans les Sankuru après la perte de près de 400 000 doses d'antipaludéens. Ces médicaments stockés depuis plus d'une année au centre de distribution régionale à Lodja sont tout simplement périmés pendant que des milliers de personnes en ont besoin. Fin hier vendredi des négociations entre le gouvernement et la FCM23 en Suisse. C'est avec des avancées concernant notamment le respect du droit international humanitaire et l'accès des populations à l'aide humanitaire. L'invité de ce journal est un jeune entrepreneur de Bukavu. Bienvenue Baraka, la vingtaine révolue, fabrique des œuvres d'art grâce au recyclage, avec comme matière de prédilection des déchets plastiques, organiques et des papiers usagés. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Nsiala assure la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, près de 400 000 doses d'antipaludins placées dans l'entrepôt du centre de distribution régionale des médicaments à Lodja dans le Sankuru sont arrivées à expiration. Ces médicaments, réceptionnés en novembre 2024, n'ont jamais été distribués jusqu'à leur péremption, suscitant indignation et appel à une enquête. Des sources proches du dossier indiquent qu'une mission d'enquête en provenance de Kinshasa est attendue dans les prochains jours pour examiner les circonstances ayant conduit à la perte de ces stocks stratégiques. Explication avec Esther Dalafina.
Selon le médecin chef de division provinciale de la santé, les lots avaient été placés en quarantaine dès leur arrivée au mois de novembre 2024 en attendant une autorisation d'utilisation. Pendant 5 mois, aucune dose n'a pu être sortie. La situation s'est aggravée lorsque Chemonix, l'organisation international chargé de l'expédition, a instruit le centre de distribution régionale des médicaments CDR basé à Lodja de ne distribuer aucun médicament en application d'un décret du président américain suspendant l'aide étrangère et humanitaire. La levée de cette mesure n'est intervenue qu'en octobre 2025, soit 11 mois après l'entreposage, alors que les produits s'approchaient déjà de leur date de péremption. L'administrateur du territoire intérimaire, Georges Njoke Okala, appelle à l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités dans ce qu'il qualifie de graves dysfonctionnements.
Nous demandons au Conseil de sécurité provinciale qui nous aide à prendre certaines décisions.
Même son de cloche du côté de la société civile. Agnès Menjong, président de la société civile révolutionnaire du Sankuru, dénonce une négligence inacceptable dans cette zone où le paludisme demeure une des principales causes de mortalité. Esther Ndalafina Bojimaï, Radio Kapi.
Et au Kasaï Central, pendant ce temps, la vente de la bouillie, communément appelée Plampinout, devient récurrente à Kananga, chef-lieu de la province. Pourtant, ces produits destinés aux enfants malnutris est distribué gratuitement à cette catégorie avec l'appui des partenaires de la République. Cependant, bien qu'interdite, sa vente se fait partout, dans des magasins, au marché et autres abords de certaines écoles, alors que les enfants malnutris peinent à en bénéficier. Le mouvement citoyen Filimbi déplore cette situation. Il invite les autorités sanitaires, administratives ainsi que les services de sécurité à s'impliquer pour décourager la commercialisation de ces produits thérapeutiques. André Katenenga Lamouloumé nous fait le point.
Dans plusieurs boutiques et étalages de Kananga, des sachets de Plampinout sont exposés à la vente. Les vendeurs disent s'approvisionner auprès de certains agents de santé et revendent chaque sachet à 1000 francs congolais. Jeanne Ntumba, nom d'emprunt d'une vendeuse rencontrée au marché de Bianchi, témoigne.
Vous pouvez voir des gens venir et demander si on veut acheter des Plampinout. Ils nous vendent pour que nous restions revendre.
Cette situation inquiète les mouvements citoyens Filimbi. André Moujani, son coordonnateur provincial, estime que la pratique porte préjudice aux enfants souffrant de malnutrition.
Ça me fait mal. Vous verrez ceux qui sont considérés comme malnutris, ceux à qui ces produits sont destinés, ils ont difficile à accéder à ces produits.
André Moujani dénonce l'inaction des autorités face à ces commerces illicites. Il appelle à l'implication des services administratifs, sanitaires ainsi que de sécurité pour sanctionner les acteurs impliqués, notamment certains responsables des structures de santé accusés de détournement. Nous avons tenté en vain d'avoir la réaction des autorités sanitaires à ces sujets. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Le 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la FCM 23 s'est achevé hier vendredi à Montreux, en Suisse, après 5 jours de discussions sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux, dont le Qatar, les États-Unis, la Suisse, l'Union africaine et le Togo, avec la participation de la MONUSCO. Plusieurs avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord signé à Doha en novembre 2025. Notamment la libération de détenus en vue et le déploiement imminent sur le terrain d'un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. Des détails avec Martial Papimukeba.
Dans le communiqué final, les gouvernements congolais et la FCM23 ont réaffirmé l'urgence de fournir une assistance vitale aux populations affectées par les conflits dans l'est du pays. Les deux parties s'engagent à respecter les droits internationaux humanitaires, protection des civils, des infrastructures essentielles et des acteurs humanitaires. Autre engagement, faciliter un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire. Objectif, éviter tout détournement ou instrumentalisation. Sur les terrains sécuritaires, un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu sera bientôt déployé. Les premières missions sont attendues d'ici une semaine avec l'appui logistique de la MONUSCO. Les deux camps s'engagent également à libérer des détenus dans un délai de 10 jours. Au total, 311 détenus du côté de l'AFCM23 et 116 du côté gouvernemental. Mais l'AFCM23 et le gouvernement ne sont pas parvenus à conclure le troisième protocole de l'accord cadre consacré à l'accès humanitaire et à la protection judiciaire. Au cœur des divergences, notamment la réouverture de l'aéroport international de Goma et la levée des condamnations à mort visant certains membres de l'AFCM23. L'accord cadre, signé à Doha entre les deux parties, prévoit 8 protocoles, mais jusque-là, celles des ont été formellement conclues. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sur terrain, au Nord Kivu, pendant ce temps, la société civile du groupement de Boabo alerte sur la recrudescence de l'insécurité observée ces dernières semaines dans plusieurs villages de cette partie du territoire de Massissi. Elle dénonce des pillages, des tueries et autres actes de torture contre les civils. Une situation qui, selon cette structure citoyenne, perturbe les calendriers scolaires et provoque des déplacements massifs des habitants vers Massissi Centre. Des détails avec Jean Gandou.
Dans un rapport publié mercredi dernier, la société civile du groupement de Boabo dresse un tableau alarmant de la situation sécuritaire sur place. Elle indique qu'entre le 15 mars et le 15 avril 2026, plusieurs villages ont été pillés, 4 hommes tués et plusieurs autres grièvement blessés par balle ou à la machette par des hommes armés non encore identifiés. Selon cette source, les assaillants opèrent principalement la nuit, rendant leur identification difficile. Le rapport fait également état de 2 personnes torturées par des éléments de l'AFC-M23 qui occupe la zone. Parmi les villages récemment touchés figurent notamment Mafuo, Kishonja, Butambo et Bouloua. Toujours selon ce rapport, dans les localités de Mouanga, Luchébéré, Bouchiha et Kibarangirira, 25 personnes ont été grièvement blessées à la machette, dont 15 femmes. Par ailleurs, dans la nuit de lundi à mardi dernier, le centre de santé de Boabo a été pillé par des assaillants. Tous les médicaments et équipements médicaux ont été emportés, aggravant davantage la situation sanitaire dans la zone. Face à cette recrudescence de l'insécurité, plusieurs habitants sont contraints de fuir leur village pour se réfugier à Massissi Centre dans des conditions précaires. La société civile lance un appel urgent aux autorités compétentes pour une intervention rapide.
Et puis cette bonne nouvelle en Ituri, où 356 miliciens, dont 10 femmes issues de différents groupes armés, ont adhéré depuis le 2 avril dernier au programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire. Ils ont également remis 96 armes ainsi que des munitions. Ces opérations se sont déroulées lors d'une tournée organisée par la coordination provinciale du PDD-RCS avec l'appui de la 32e région militaire des FRDC dans plusieurs localités des territoires d'Irumu, de Djougou et Mahagi. Ces désormais ex-combattants vont ensuite bénéficier des projets de réinsertion communautaire avec l'appui des partenaires. Les détails avec Isaac Remouyopi.
Ces miliciens proviennent de plusieurs groupes armés, notamment d'autodéfense, Mapi et Chiniatuna. Ils ont été identifiés entre les 2 et le 14 avril dans les localités de Plito, Lopa, Kilo, Mabanga, Berunda, Balingina et Tchere, situées dans les territoires des Djougou, Irumu et Mahagi. Au total, 96 armes ainsi que des munitions ont été remises au FARDC et à l'équipe d'IPD d'RCS. Tous ces ex-combattants ont reçu des cartes de démobilisation. Ces documents leur permettent désormais de circuler librement et de reprendre leurs activités en attendant leur prise en charge dans les projets de réinsertion. Par ailleurs, 32 ex-combattants du groupe d'autodéfense à Mabanga qui n'avaient pas encore obtenu leur carte en ont également bénéficié. Selon les services de communication de la coordination provinciale d'IPD d'RCS à Ituri, leurs partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ont déjà entamé le processus d'identification de ces nouveaux ex-combattants. Objectif, lancer les activités de réinsertion communautaire dans plusieurs filières, signalant qu'environ 2000 miliciens ont déjà déposé les armes et adhéré au PDDRCS depuis avril 2023. La majorité d'entre eux est déjà réinsérée dans la communauté. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis cette inquiétude sur la route nationale numéro 4 dans la province de la Tchopo. Un bus de transport en commun de la compagnie Dissa a été la cible d'une attaque armée hier vendredi entre les points kilométriques 55 et 60. Le bilan, encore provisoire, fait état de plusieurs blessés et des civils amenés de force dans la forêt. Le point avec Jacques Moukonkoli.
L'embuscade a été tendue par des hommes armés non encore identifiés alors que le véhicule transportait des passagers civils. Selon les premiers témoignages, les assaillants ont ouvert le feu, blessant plusieurs personnes par balle, ramenant avec eux certains passagers dans la forêt. Quant aux blessés, ils ont été évacués en urgence vers les structures sanitaires de Kisangani par les secours arrivés sur place. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'exécutif provincial a qualifié cette attaque d'acte lâche et barbare. L'autorité provinciale annonce que des mesures sont actuellement prises pour identifier et traquer les auteurs de cette incursion afin de les traduire devant la justice. Le document précise également que des dispositions sont en cours pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province, sans toutefois détailler la nature du dispositif déployé sur le terrain. Face à cette situation, le gouvernement provincial appelle la population à une vigilance accrue. Pour l'heure, la destination des otages reste inconnue et les opérations de recherche se poursuivent. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons de cette scène inédite qui s'est passée dans la nuit de jeudi à hier vendredi dans la ville de Lubumbashi. Des jeunes désœuvrés communément appelés Chege ont érigé une barrière sur l'avenue Lumumba au croisement avec l'avenue Ndjamena dans la commune Lubumbashi pour rançonner les automobilistes. Tout passage était conditionné par un paiement, faute de quoi les véhicules étaient caillassés. Une image qui a choqué plusieurs louchois. Le nombre de jeunes vivant dans la rue dans la capitale du cuivre est croissant. Ils agressent et estorquent des paisibles citoyens. Toutes les tentatives menées par les autorités pour débarrasser la ville de ces jeunes ont montré leurs limites. Le point avec Paul Mounanga.
Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit clairement des pneus usagés barricader la route. Ces jeunes exigent de l'argent à chaque conducteur qui y passe, soit 1000 francs congolais ou plus. Ce spectacle n'est pas le premier à en croire plusieurs sources. Ces jeunes profitent de l'absence des forces de sécurité sur certaines artères pour s'adonner à cette pratique décriée par de nombreux louchois. La police annonce que les enfants qui ont érigé ces barricades sont déjà arrêtés. Et elle précise que ces jeunes ont été manipulés pour poser cet acte qui n'a duré que quelques instants et qui a été filmé. Signalons qu'actuellement, le nombre d'enfants en rupture des liens familiaux est croissant. Ces enfants sont postés à différents endroits de la ville de Lubumbashi et ils sont responsables d'actes d'agression, de vols et de menaces sur des paisibles citoyens. La mairie de Lubumbashi ainsi que le gouvernement provincial ont déclenché une série d'opérations pour lutter contre leur présence. Certains ont été ramassés et transférés à Kanyamakasese au service national. D'autres ont fui et regagnent la ville avec les mêmes pratiques aux grandes dames de la population. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Présumé détournement des deniers publics en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de la justice ordonne l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur la gestion des fonds liés à un contrat conclu entre les fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, les Frivao et la société Divo SARL. Dans un communiqué publié hier vendredi à Kinshasa, le ministre évoque de fortes présomptions d'irrégularité, notamment les décaissements de plus d'un million de dollars américains, dont une partie reste sans justification. Grâce à Mzati Masanzi pour plus d'explications.
Selon le ministre de la Justice, ces contrats concernaient la réalisation d'un documentaire sur les génocides pour des gains économiques génocoste. Le communiqué fait état de plusieurs irrégularités présumées, parmi lesquelles le décaissement de plus d'un million de dollars américains, dont une partie demeure sans justification, l'absence de livrables conformes aux stipulations contractuelles, ainsi que des violations des règles de gestion des finances publiques et des passations des marchés. Face à ces éléments, le procureur général près la Cour de cassation est instruit d'ouvrir des enquêtes judiciaires afin d'établir les responsabilités. Il devra notamment identifier les personnes impliquées, engager des poursuites appropriées, mener des actes d'enquête approfondis et prendre des mesures conservatoires, y compris le gel et la saisie des avoirs des personnes concernées. À travers cette démarche, le ministre de la Justice réaffirme la volonté du gouvernement de lutter contre l'impunité, de protéger les deniers publics et de garantir la bonne gouvernance, conclut le communiqué.
Et puis, en grève depuis plus d'un mois, les agents et cadres de l'administration du ministère des Hydrocarbures ont manifesté hier vendredi devant l'immeuble du gouvernement ici à Kinshasa. Ils réclament les paiements de leurs primes ainsi que le respect des engagements pris par les autorités. Selon Elvis Pemba, le président du comité de base syndicale à l'origine de ce mouvement, cette situation pourrait avoir des répercussions sur l'approvisionnement et les prix des produits pétroliers déjà sensibles pour les ménages congolais. Elvis Pemba appelle à une solution rapide afin de préserver les intérêts de la population. On l'écoute.
La précision que nous apportons, c'est quand nous parlons de notre émargement, de la rubrique effort de reconstruction et stock stratégique, il s'agit bien d'une ligne inscrite dans la structure du prix dans la parafiscalité pétrolière. C'est de cette ligne-là qu'il s'agit, qui est allouée au ministère des Hydrocarbures et qui est directement gérée par le ministère des Hydrocarbures. C'est ainsi que nous parlons de notre émargement, parce que le procès verbal synthétique du 21 avril évoque l'inscription du ministère. Cette inscription est une résultante des revendications portées jadis par l'intersyndicale au niveau de la primature. C'est ainsi qu'à ces jours où la primature a honoré son engagement, nous sommes en train de revendiquer notre émargement. En principe, nous sommes au deuxième mois de la grève, en tout cas depuis l'expiration du préavis de grève qui a été adressé à l'employeur ainsi qu'à toutes les autorités du pays.
Notez que tous nos efforts pour obtenir la réaction de l'autorité de tutelle se sont avérés vains jusque-là.
Actualité internationale.
Angola, entre ferveur religieuse et tension sociale, le pape Léon XIV attendu à Luanda. Du 18 au 21 avril prochain, le pape Léon XIV sera en Angola, la troisième étape de son voyage apostolique des 10 jours en Afrique. Le souverain pontife entame une visite très attendue dans un pays marqué à la fois par une ferveur religieuse et des tensions sociales à l'approche des séances électorales.
L'invité.
Il s'agit de Bienvenu Baraka, un jeune entrepreneur d'une vingtaine d'années révolues qui s'adonne à la fabrication d'œuvres d'art à base de déchets en plastique organique et de papier hors usage. Jean Kassami l'a approché. Bienvenu Baraka est notre invité.
Bienvenu Baraka Vanessise, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons dans une sorte d'atelier. Ce n'est pas déterminé si c'est vraiment un atelier ou une maison résidentielle. C'est à vous de nous préciser.
Ici, c'est une maison d'habitation et une maison d'œuvres d'art et aussi un laboratoire de conception des produits de recyclage des déchets plastiques, organiques et même des papiers. Je suis fondateur de R-West Solutions, une entreprise artisanale dans la transformation des déchets plastiques. Ici, nous transformons les déchets en œuvres d'art, des décorations. Nous créons des fleurs à partir des déchets plastiques de papier. Nous faisons aussi des chaînettes de bracelets personnalisés à partir des déchets. Il y a aussi des pots de fleurs et d'autres tableaux artistiques que nous produisons à partir des déchets.
Un jeune homme de ton âge, d'où est venue pour toi l'idée de prendre une telle initiative?
L'idée m'est venue quand j'ai vu la ville était trop sale. J'ai marché vraiment et j'ai trouvé des déchets presque partout. Et du coup, comme j'ai évolué en tant que bricoleur depuis mon enfance, je me suis dit que je peux entrer dans la transformation de ces déchets et produire quelque chose. C'est ainsi que j'ai commencé à transformer les déchets plastiques en bracelets personnalisés Et en 2023, je suis entré dans la transformation des bouteilles plastiques en fleur. Et puis plus tard, j'ai intégré le papier en transformant les papiers en pot de fleur.
Pour cette spécialité, tu as été dans une école de formation à un moment?
Non, je n'ai pas vraiment étudié cette transformation, mais j'ai fait des recherches sur Internet et développé d'autres compétences moi-même en pratiquant seulement, en appliquant aussi l'innovation et la créativité, être concurrentiel avec d'autres produits. Donc, je n'ai pas fait de formation, mais c'est vraiment une autodidactie, je peux le dire.
Et dans l'éducation classique, tu es de quel domaine?
Je suis diplômé en mécanique, machines, outils, et j'ai fait aussi génie civil à l'IOB, en école des mines IOB. Je suis en bac D, génie civil.
Est-ce que tu rêves plus grand que ce que tu fais?
Oui, je rêve plus grand vraiment, parce que ici, je suis en train de créer une entreprise qui sera en train de proposer des solutions aux déchets et elle s'appelle Harvest Solutions. Nous allons proposer beaucoup de solutions aux déchets. C'est dans notre mission vraiment, parce que nous avons vu que il y a vraiment une crise des solutions. Donc, les déchets n'est pas bien géré parce qu'on manque des solutions, des choses qui peuvent transformer ces déchets et créer quelque chose de valeur. Et nous, chez AOS Solutions, nous pensons créer plusieurs solutions aux déchets et des produits que nous allons produire vont être concurrentiels sur les marchés et pour aussi faire élever la transformation de chez nous. Et c'est ainsi que nous allons travailler avec AOS Solutions dans les années à venir. J'irai travailler avec une grande équipe et je le fais toujours parce qu'il y a d'autres personnes que nous collaborons avec. Par exemple, à Bagira, nous avons Cosmos Center, des amis que nous avons formés, certains artistes là-bas qui aussi commencent à transformer les déchets plastiques. Et c'est avec eux que nous évoluons d'abord ces derniers temps. Et plus nous avançons, nous allons aussi engager d'autres personnes pour nous rejoindre dans cette lutte.
Vous écoulez facilement les produits de votre ouvrage?
Ce n'est pas facilement parce que nos produits ne sont pas d'abord très connus sur le marché. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler d'abord pour faire connaître nos produits. C'est pourquoi nous participons dans des expositions, des œuvres d'art et même entrepreneuriales pour exposer nos produits et faire découvrir au monde que nous produisons quelque chose avec les déchets plastiques.
Bienvenue Baraka Banyosize, nous vous disons merci.
Merci.
C'était notre invité, bienvenue Baraka, ce jeune entrepreneur de Bukavu, une vingtaine d'années révolues, qui s'adonne à la fabrication d'œuvres d'art à la base de déchets en plastique organique et des papiers hors usage. Il s'entretenait avec Jean Kassami. Fin ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Richard Junior Kamunga. Jean-Claude Siala était à la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.